Welcome to Pyramid to Circles. This podcast is for the leaders and for the change makers who have the goal of evolving their company
towards more collective intelligence, more empowerment,
more self-organization, but asking themselves how to make this happen, where to start, and how to get inspiration from others. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est essentiel dans la vie, mais surtout essentiel dans le changement, et qui est relativement complexe parce qu'il relève de l'intangible. C'est celui de l'intelligence de soi. Quand on veut changer ou quand on veut faire changer nos modes de fonctionnement, nos habitudes, quand on veut faire autrement, ben ça passe par une prise de conscience de ce qui nous est naturel, de nos préférences, mais aussi par l'exploration d'autres manières de faire, d'autres manières de réagir, d'autres manières d'entrer en relation, mais qui nous sont moins naturelles. Et ça demande une certaine lecture de soi, de l'introspection, ça demande une conscience de soi pour faire se bouger, pour faire ce mouvement. Alors, comment être conscient, comment être en intelligence de soi-même, de ses propres mécanismes intérieurs, et aussi comment aider les autres à en prendre conscience des leurs, ben c'est une des questions que se posent naturellement les accompagnateurs du changement. Et pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui a fait un véritable chemin d'intelligence de lui-même. Il vient du business à des postes de direction générale. Et après 25 ans de carrière, il a décidé de s'orienter dans le monde de l'accompagnement et du coaching en rachetant un cabinet spécialisé sur le sujet d'intelligence de soi. Bruno Thévenin, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. Tu es où au moment où on se parle? J'aime bien poser la question à mes amis.
Je suis dans mon bureau.
Ton bureau, c'est, je veux dire, dans quelle ville? Tu es à Paris?
Ah, je suis à Courbevoie.
Tu es Courbevoie, d'accord, super. Ouais. Alors, écoute, je te propose, je te présente rapidement et tu me corriges et complètes. Donc, en fait, pour te présenter, tu as une grosse expérience business parce que pendant 25 ans, tu as eu différents mandats de direction générale en France, en Europe, notamment à la tête de PepsiCo France. Mm-hmm. Alors, c'est environ 700 salariés. C'est de nombreuses marques qui sont leaders sur leur marché. Tropicana, Lipton Ice Tea, Pepsi, Ben & Nuts, Quaker, Lay's, Doritos, c'est des marques qu'on connaît bien. Je pense que les auditeurs s'y retrouvent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la tête de cette entreprise, tu as réussi d'une part à créer des conditions de la croissance, une croissance exponentielle. Je n'ai pas les chiffres, peut-être tu me diras, mais quand tu es à la tête de l'entreprise, l'entreprise a vraiment une très grosse croissance, donc business, mais aussi une performance sociale. Et puisque en fait, l'entreprise était numéro un Great Place to Work, numéro un Top Employer en France en 2019, et donc de nombreuses reconnaissances, une culture très forte et reconnue par de nombreux prix, et reconnue généralement comme un endroit, une entreprise très performante sur le plan social. Mm-hmm. Alors, j'ai lu, tu dis ce qui te passionne, c'est l'apprentissage en continu, l'intelligence collective, l'empathie, et l'inclusion des différences. Alors, nous, on a eu l'occasion de travailler une fois ensemble il y a 2-3 ans. Et moi, une chose que j'ai observée, c'est que tu manages tes équipes avec le cœur et que c'est comme ça que cette relation, cette connexion de cœur, je pense qu'elle était… c'est une chose qui m'a marqué ou qui caractérise, je pense qu'on peut dire ça. Je ne sais pas si tu seras d'accord. Alors, il y a 18 mois, tu as pivoté complètement. Et ça, c'est très intéressant. Tu vas nous en parler. Parce que tu as quitté cet univers de la grande entreprise. Et tu t'es lancé comme entrepreneur, puisque tu as donc racheté, comme je disais, un cabinet, Osiris. Alors, Osiris, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que de nombreuses personnes connaissent, en tout cas en France, un cabinet spécialisé dans un outil qui s'appelle historiquement le MBTI, mais maintenant le CCTI. Et ses fondateurs sont connus, ils ont eu de nombreux ouvrages, Pierre Covin et Geneviève Cailloux. Et Geneviève et Pierre ont formé des générations de coachs à ces outils. Moi-même, je me suis formé chez Osiris au MBTI il y a des années. Et ils ont contribué très fortement à développer ces approches dites de typologie de personnalité en France, en Europe. C'est vraiment des grands pionniers et des marqueurs. Ils ont marqué des générations. Alors du coup, j'ai envie de te poser plein de questions. Déjà, peut-être si tu veux compléter, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette introduction?
Juste te dire que j'ai repris cabinet pas tout seul. Hein, je l'ai repris avec deux associés, Hélène Dercourt et Bruno Ardouin. Voilà, et c'est une aventure qui maintenant a démarré il y a 2 ans.
Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi j'ai envie de te poser la question, mais qu'est-ce qui a fait qu'un boulot t'a dit je vais arrêter d'être le patron de PepsiCo France alors que tout va bien et je vais racheter Osiris c'est quand même un sacré. Voilà, ça s'appelle un pivot de vie et de carrière, mais de vie aussi. Et j'avais juste, je suis vraiment que tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a présidé à ce choix, à cette réorientation? Voilà, je suis curieux.
C'est un long processus. D'abord, moi, j'ai eu la chance de vivre une expérience dans l'entreprise extrêmement positive, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on décrit beaucoup l'entreprise, mais moi, j'ai vécu vraiment l'entreprise comme une terre d'apprentissage, une terre d'aventure, où j'ai rencontré des amis, où j'ai grandi, j'ai fait 12 jobs en 25 ans. Je suis rentré dans une boîte, elle faisait 30 millions, je suis reparti, elle en faisait 1 milliard. Bon, voilà. Donc, j'ai vraiment vécu une aventure et je peux témoigner que le monde de l'entreprise est un monde dans lequel on peut grandir, on peut apprendre, on peut collaborer positivement. Et ça, c'est une conviction profonde que j'ai. Donc, ça, c'était le bilan que j'ai pu faire de toutes ces années. Alors, pourquoi finalement avoir décidé d'en partir? Alors que finalement, j'avais appris autant de choses et j'avais vécu cette superbe aventure, parce que je me suis rendu compte que le business était devenu un prétexte. Et qu'en fait, si je faisais du business, c'est parce que j'avais l'opportunité, à travers le business, de manager, de collaborer, de développer et de me développer. Comme c'était devenu un prétexte, je me suis dit, mais si finalement tu te consacrais pleinement à ça? Au développement de soi et des autres. Et ça a été un long processus, puisqu'il y a 15 ans, j'avais fait un BHEC, et puis j'étais rentré dans mes premiers postes de comité de direction, et j'avais voulu créer de la cohésion avec mes équipes. À l'époque, j'étais directeur commercial, et j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Covin à ce moment-là, l'un des deux fondateurs de Osiris. Et pendant 2 ans, il m'a aidé à construire l'équipe. Et j'ai trouvé l'acte de coaching et l'intelligence de soi absolument fascinant. Et je me suis dit, tiens, là aussi, comme j'adore apprendre, je me suis dit, je vais me former au coaching, c'est arrivé comme ça. Enfin, bon, OK. Donc, j'ai fait ça en parallèle d'un autre job. Là, j'avais pris la direction marketing. Et ça a duré 2 ans, hein, 2 ans d'introspection, 2 ans d'apprentissage en parallèle de ma fonction dans l'entreprise. Et ça m'a positivement transformé, dans le sens où ça ne m'a pas changé, ça m'a complété. C'est-à-dire que j'ai été mobiliser chez moi des ressources que je n'utilisais pas. Et ça a changé mon style de management et de leadership. Du coup, les années suivantes, je continue mon parcours et a germé l'idée de pouvoir finalement être plus congruent entre ma propre raison d'être, qui n'est pas facile à trouver, mais que je pensais avoir trouvé à ce moment-là, et ce que je faisais. Et je crois que ce qui est ma place aujourd'hui et ce qui me passionne, ce qui pourrait être une mission, une vocation, c'est l'idée de contribuer modestement à améliorer la société en aidant individuellement et collectivement chacun à être plus lucide sur son fonctionnement, à développer une forme de discernement, à développer son libre arbitre. Parce que tout n'est que relation. L'économie, la bourse, les relations familiales, tout n'est que relation. Et donc, si on se comprend et qu'on comprend les autres, on peut véritablement changer la société. Voilà. Et très vite, donc il y a très vite, c'était un long processus, mais il y a 5 ans, je me suis dit, il faut que je quitte PepsiCo. Ça n'a pas été simple, ça a pris du temps. Et en même temps, j'ai monté ce projet de reprendre Osiris. Avec trois éléments en tête, hein, si j'essaie de te les redonner, c'était premièrement donner plus de sens à ma vie. Donc, c'est cet élément de congruence avec ce que je pense, ce que je suis au profond de moi-même, hein. Et là, on rentre, pour tous ceux qui s'y intéressent, à des éléments qui tourne à la logothérapie, hein, Viktor Frankl. Enfin, je sais pas si tu as lu, mais c'est vraiment cette idée qu'on a tous une place et qu'il faut qu'on s'épanouit vraiment quand on la trouve. Et puis le fait de me sentir utile et utile au-delà de moi-même. Voilà, ça c'était quelque chose d'extrêmement important, parce que je me rends compte que si j'ai fait ce parcours, c'était pour apprendre, mais c'était aussi parce que voilà, j'avais des moteurs qui étaient le confort matériel, qui étaient l'apprentissage, qui n'étaient plus les moteurs que j'avais à ce moment-là. Voilà, c'était vraiment plus alors on est dans la pyramide de Maslow, hein, peut-être, et qui était plus maintenant dans la volonté d'être plus dans un accomplissement personnel. Donc, donner du sens à ma vie, avec cet adage de Teilhard de Chardin qui ne me quitte pas depuis 10 ans, c'est qui s'élève élève le monde. Voilà, donc ça, c'était un truc pour moi très important. Le deuxième, c'était la notion de liberté. Je me suis senti très libre dans le monde de l'entreprise, mais quand même, j'ai vu les dernières années une forte centralisation, une baisse d'autonomie qui ne me convenait plus. Donc, ça a été aussi un des éléments déclencheurs. Et puis vivre une expérience entrepreneuriale, ou pour le dire différemment, vivre plusieurs vies professionnelles, j'ai toujours trouvé ça assez enthousiasmant. Voilà, on n'a qu'une vie, mais on peut avoir plusieurs vies dans la même vie. Donc ça, j'ai trouvé ça, ça m'a vraiment parlé et j'ai essayé de l'accomplir. Et puis le troisième élément, donc sens, liberté, le troisième, c'était le plaisir. C'est de se dire, et finalement, est-ce que je me sens énergisé quand je rentre le soir? Et dans les dernières années, c'était moins le cas. Donc c'était un indicateur. Et voilà, et bon, la résilience, c'est vraiment une qualité, hein. Et ça peut devenir quelque part un défaut. Comme toute qualité, elle a sa part d'ombre. Je pense que j'étais trop résilient parfois et que il faut savoir aussi se poser la question, est-ce que je prends du plaisir dans ce que je fais? Voilà, donc sens, liberté, plaisir, c'est les trois éléments qui m'ont guidé et voilà, pour faire cette reconversion.
Tu as dit, je voulais me sentir utile au-delà de moi-même. Et je suis, j'entends bien le sens, l'attrait, par rapport à ce qui te passionne et à tes convictions. Et merci pour je trouve que c'est très beau ce que tu dis sur la lucidité et améliorer la société, c'est être plus, aider les gens à être plus lucides, développer leur propre libre arbitre. Quels sont peut-être les Tu t'es dit, je peux peut-être amener des choses que ce que j'ai apprises ou que je sais faire dans mes jobs de dirigeant, dans ce monde-là du coaching et de la développer. C'est quoi l'utilité que tu t'es dit que tu voulais amener de nouveautés ou de parce qu'il y a sûrement quelque chose comme ça. À nouveau, je suis très curieux, mais j'ai juste envie de te pousser un tout petit peu. Je suis vraiment très curieux de t'entendre.
Non, oui, c'est une bonne question. En fait, chacun crée son identité. C'est-à-dire que, y a heureusement beaucoup de gens qui interagissent sur le développement personnel, sur le coaching. Peut-être que mon identité, elle est du fait d'abord que, j'ai vraiment eu des expériences opérationnelles nourries dans la durée.
Mais oui.
Que j'ai eu des expériences de direction générale, donc je connais bien le sujet. Que j'ai démystifié ça aussi. Et donc, je ne regarde plus les CEO avec déférence. Hein. Je veux dire, ce sont des personnes tout à fait normales qui simplement ont vécu des parcours, qui ont des facteurs chance, des facteurs de réussite, aussi du mérite. Et je crois que finalement, ça me donne l'opportunité et la caution de les challenger et de reposer la question du leadership. Parce que devenir un leader, on devient leader, entre guillemets, quand on devient leader, c'est-à-dire cette idée d'exercer le pouvoir, quel qu'il soit. Bien sûr, ça incombe une responsabilité, mais on le devient pour différentes raisons. Et malheureusement, le constat que je fais, c'est que beaucoup de raisons pour lesquelles on exerce le pouvoir sont parfois des moteurs, voire des moteurs toxiques. C'est le besoin de reconnaissance, le besoin de se rassurer sur l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un individu pousse plus loin et arrive au sommet d'une organisation? Souvent des bonnes raisons, mais souvent des raisons plus subies, des croyances ou des réponses à des besoins un peu presque des névroses, tu vois. Et en fait, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour essayer de changer le leadership, avoir moins d'ego. Voilà, on a beaucoup de leaders qui ont des égos surdimensionnés. On a beaucoup de leaders qui sont convaincus d'avoir raison sur chaque chose. On a beaucoup de leaders qui sont attachés à l'argent et au pouvoir. Je me suis dit, non, on peut vivre ce leadership différemment. On peut rester humble, on peut être dans l'écoute, on peut exercer ce petit pouvoir qu'on nous donne d'une façon positive, d'une façon qui ait un impact bénéfique à la société. Et si j'avais une mission encore plus profonde que celle que je t'ai donnée, ce serait, en tout cas, moi, ce serait d'essayer humblement de faire évoluer le modèle de leadership pour que ce soit mieux pour la société et le bien commun. Et donc, il y a cette notion d'éthique, hein, on en parle jamais, mais il y a vraiment ça, au fond.
Ouais.
OK, on est arrivé à un certain niveau dans l'entreprise, on exerce un pouvoir. Pourquoi? Ben, chacun doit essayer d'y répondre. Pourquoi il a fait cet effort-là, hein? C'est une bonne question, parce que c'est toujours un effort. Donc, à chacun de régler ses problèmes. Mais derrière ça, quand il y est, est-ce que comment tu exerces ce pouvoir-là? Et qu'est-ce que tu vas incarner? Et comment tu vas influencer tes équipes? Ça me semble très important.
On parle beaucoup de... On parle en ce moment, alors c'est un peu le thème aussi de ce podcast, mais on parle de la transformation des organisations vers des modèles justement de pouvoir plus décentralisés. Mmh. C'est un mouvement de fond. Le passage d'un mode très pyramidal à un mode plus sur l'intelligence collective. Beaucoup d'entreprises voient ça comme une réponse à la complexité. Un monde plus complexe, on le voit avec la digitalisation, on le voit avec toutes sortes de raisons. Et on veut pour créer des solutions pour nos clients qui sont plus adaptés, qui sont plus agiles. On a besoin de... Enfin, le modèle purement hiérarchique, il a des avantages, il a aussi de nombreux inconvénients, souvent qui ralentissent, qui sont trop lourds. Bref, il faut faire autrement. Et du coup, moi, je suis curieux de t'entendre. Donc, on peut voir ça juste dans l'entreprise comme une opportunité pour mieux faire du business, mais derrière ça, il y a peut-être aussi une vision éthique de se dire finalement, est-ce que dans nos sociétés, parce que tu parlais de ça, on ne peut pas être dans des sociétés où le pouvoir de chacun a plus de... Enfin, chacun peut mieux contribuer, il y a des potentiels de chacun à aller chercher. Est-ce qu'on peut être plus intelligent ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes? Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dont tu parles en creux en même temps. Du coup, moi, j'ai envie de te poser la question. Toi, comment tu vois, parce que pour moi, c'est une vraie question, personnellement, c'est quoi le modèle leader de demain? C'est-à-dire, c'est le modèle de leadership de demain. Si on disait à une entreprise, ben voilà, si vous allez vers ces modes d'organisation plus décentralisés, plus agiles, tout ça, ben, ça implique que vos modèles de leadership, ils aillent vers ça. Et ça, c'est quoi? Toi, tu, je ne sais pas si la question est claire mais, ou si ça te parle, mais
si,
moi. Je suis très curieux d'entendre par rapport à ça, parce que je pense que tu es exactement sur ce sujet. En fait.
Moi, c'est ma réponse, donc elle ne vaut que pour moi. Moi, je trouve que le leader d'aujourd'hui et de demain, c'est un leader qui doit d'abord connecter ses vulnérabilités, ses fragilités, et qui ne doit pas être dans la toute-puissance. Parce que la vérité, c'est que le monde est comme ça et que nous sommes tous comme ça, mais qu'il y a un grand théâtre dans les médias, dans les entreprises, qui est le fait de croire qu'on est tout puissant. Ce n'est pas vrai. Et qu'au contraire, c'est par la connexion à sa vulnérabilité qu'on devient vraiment humain et qu'on se donne aux autres et qu'on est capable de soulever l'adhésion fédérée et autres. Donc, c'est un leadership humble. Et donc à l'écoute, hein, écouter plus que répondre. Et c'est aussi un leadership qui est capable de donner l'opportunité à chacun de vivre et de s'exprimer tel qu'il est, de respecter chacun dans sa singularité. Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence collective, mais finalement, on en fait peu. Pour faire l'intelligence collective, le postulat, c'est d'abord de s'assurer que chacun puisse venir dans l'entreprise comme il est et de s'exprimer pleinement dans sa différence et dans sa singularité, parce que c'est dans cette multiplicité des singularités qu'on construit une diversité. Et c'est parce qu'on a cette diversité qu'on a de l'intelligence collective. Or, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, alors bien sûr qu'on évolue heureusement, mais on a un peu encore la préhistoire, dans le sens où beaucoup de leaders apprécient et reconnaissent, et c'est bien normal et c'est humain, des gens qui leur ressemblent. Donc, je dirais, c'est un leader humble et donc dans l'écoute, apprenant, et qui est capable de promouvoir la diversité au service de l'intelligence collective.
C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de diversité en ce moment, mais on entend par diversité toutes sortes de choses, mais souvent qui sont extérieures. Donc, la diversité, c'est des gens on pourrait dire dans les entreprises, on va penser à diversité en disant il faut des gens qui ont des parcours différents, des âges différents, des origines différentes, sociales, nationales, culturelles. Alors là, on a la diversité. Alors, c'est une vision extérieure des choses, mais pas intérieure des choses, parce que finalement, Il peut aussi être deux personnes qui ont fait la même, je sais pas, la même formation venant du même village, mais il peut y avoir aussi beaucoup de diversité entre nous. Mais du coup, enfin, je dis ça parce qu'il me semble que en ayant été dans l'intelligence de soi, tu as pris le parti de cette diversité plutôt intérieure. Enfin, il y a peut-être aussi les deux, mais qu'est-ce que tu entends par diversité? Et au-delà de ces marqueurs extérieurs, je pense que tu vas beaucoup plus loin et vous allez beaucoup plus loin chez Osiris. Donc, tu peux nous en parler?
Oui, bien sûr. C'est en fait ce que tu dis est intéressant pour reprendre l'image de l'iceberg. En fait, on sait. Alors d'abord, on s'est intéressé à la diversité depuis, on va dire, quelques décennies et enfin. C'est-à-dire que les processus humains font que la norme représentée par la majorité s'impose toujours à la minorité. Donc, si on est une majorité de blancs, forcément, c'est mieux d'être blanc que d'être noir. Si on est une majorité d'hommes, ben, c'est mieux d'être des hommes que des femmes. Si on est, voilà, bon. C'est toutes les formes de si on est hétéro, la norme, c'est être hétéro. Donc, c'est anormal d'être autre que hétéro. Donc, ça, c'est vraiment malheureusement ce qui nous a habité pendant des siècles, des millénaires, et on voit bien qu'il y a cette volonté, et heureusement, enfin, de supprimer les normes, de respecter les individus, de reconnaître les minorités, du coup, de reconnaître la diversité. Mais aujourd'hui, on s'attache, et là aussi, c'est bien normal, à la diversité visible ou à la diversité extérieure, donc c'est le sommet de l'iceberg. Nous, chez Osiris, on travaille beaucoup sur la base des travaux de Carl Gustav Jung et ce que j'appelle, moi, la diversité cognitive. C'est cette diversité invisible, mais qui finalement la plus partagée, quelle que soit sa religion, son background, son genre, sa race, on a tous cette diversité en commun, la diversité cognitive, et qui est, pour donner un exemple tout simple, le fait que, qu'on le veuille ou non, à la naissance, on est né avec des préférences qui nous déterminent, et on a des personnes qui sont plus de préférences extraverties et des personnes qui sont plus de préférences introverties. Qu'est-ce qu'on en fait? Exemple appliqué au monde de l'entreprise, quand on décide de mettre en place des open space, on le fait parce que l'entreprise structurellement est extravertie, puisqu'elle se veut de promouvoir la collaboration. Mais est-ce qu'on se pose une seule seconde de l'impact que a l'open space sur les introvertis? C'est un enfer pour les introvertis. Les introvertis, ils ont besoin de phases de réflexion. Dans les open space, on ne leur donne pas la possibilité de le faire vraiment. Et puis alors le Covid est arrivé et on s'est dit non, non, mais en fait on s'excuse, c'est plus les open space. Et c'est souvent les mêmes qui étaient les dogmatiques de l'open space. Ils disent non, mais maintenant on va faire du tout télétravail. Ah bon, pourquoi? Et quand on fait du tout télétravail, on se pose la question de l'impact sur les extravertis qui ont besoin d'être dans le lien social pour s'énergiser. Jamais. Donc si on n'a pas conscience de cette diversité cognitive, comment on peut d'abord s'assurer qu'on en a une reprise et puis deux, la respecter? Encore une fois, c'est une question d'équilibre dans l'organisation au travail qui est un des débats fondamentaux que les entreprises se posent aujourd'hui. Moi, je suis toujours sidéré de l'open space ou le télétravail, mais les deux, bien sûr, et avec une forme de flexibilité pour reconnaître les introvertis et les extravertis. Et plus globalement, et on y viendra quand on parlera de l'intelligence de soi, mais c'est cette idée de sortir des dogmes. On passe notre temps, là aussi, depuis des millénaires, par besoin de sécurité et de certitude, à s'apparenter à des formes de vérité. Mais on sait très bien que la vérité, elle n'est jamais aussi simple et qu'elle est complexe. Donc, comment on fait pour pouvoir s'arranger, à concilier à chaque fois ce que l'on oppose? Et c'est ça, finalement, le vrai sujet. Et tu vois, pour compléter la définition que je donnais tout à l'heure du leader, le leader, c'est celui qui arrive à concilier les opposés, qui ne voit plus des paradoxes, mais qui voit des opportunités où, finalement, on nous dit souvent, on y reviendra, mais bon, c'est tellement. Je m'y engage, mais quand on dit, mais nous, on veut des gens qui respectent les process, on veut des gens disciplinés. Et en même temps, il faut absolument qu'ils soient entrepreneurs. Tu me donnes ça, comme brief. Moi, je te dis injonction paradoxale. La vraie question de fond, c'est où tu voudrais que je sois discipliné et où tu voudrais que je sois entrepreneur. Mais ça demande du leadership et ça demande du travail dans l'entreprise. C'est pas balancer des injonctions et dire aux managers, aux collaborateurs, démerdez-vous avec ça. Hein? Ça demande du travail.
Alors, on peut peut-être entrer justement sur l'intelligence de soi et puis peut-être même sur le CCTI, enfin, entrons dans le cœur du sujet. Peut-être là, c'est le moment de nous présenter un peu cette discipline pour qu'on peut s'y plonger. Et puis là, tu as parlé introverti-extraverti, il y a plusieurs dimensions. Et voilà, peut-être en quoi ça consiste l'intelligence de soi, quels sont les domaines ou les champs de cette conscience intérieure, intelligence de soi, elle est sur différents plans, différents champs. Donc, comment ça fonctionne? Voilà, peut-être pour ceux qui découvrent, je pense que tu peux nous rappeler ça ou nous expliquer ça.
C'est en fait prendre conscience de son mode de fonctionnement préféré, qui est devenu tellement préféré qu'il en est devenu automatique et dont on n'a même plus conscience. C'est comme si je te demandais d'écrire quelque chose et que tu prennes ton stylo, et pour écrire, tu vas le prendre, si tu es droitier, de la main droite. Et en fait, tu es même plus lucide que tu es droitier parce que tu es droitier de naissance, tu n'as pas choisi d'être droitier. Et donc, tu prends ton stylo, tu écris de la main droite, mais tu ne t'es jamais posé la question avant de prendre le stylo de la main droite, et si je le prenais de la main gauche? C'est automatique. Tu ne l'as pas choisi, c'est devenu automatique. Bon, à la limite, l'analogie s'arrête là parce que qu'on soit droitier ou gaucher, ce n'est pas très grave. Sauf que quand même, là, je reviens à ce que je te disais sur les normes. Comme les droitiers étaient majoritaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont forcé les gauchers à écrire de la main droite. On est quand même sacrément
Embêtant pour
stupide.
des gauchers, ouais.
Même on les a discriminés. Les discriminations viennent toujours des normes. On dit que quelqu'un qui est malhabile, on dit qu'il est maladroit, qu'il est gauche. Hein? Donc les droitiers se sont arrangés à discriminer ce qu'ils ont appelé la main de diable. Parce que quand je suis droitier, c'est insupportable de penser que quelqu'un ne puisse pas l'être, ou puisse fonctionner, puisse être aussi habile que moi, mais en utilisant la main gauche. C'est vrai pour tout. Et donc, si on reprend les travaux de Jung, dans notre fonctionnement cognitif, il y a quatre grandes dimensions qui présupposent notre façon d'agir, les processus qui sont en amont de nos comportements. Et sur chacune de ces dimensions, comme la nature est bien faite, on a une préférence, la main droite ou la main gauche. Et donc, première dimension, on en parlait, comment notre esprit oriente son énergie. Ben, je suis soit de préférence extraverti, soit de préférence introverti. J'ai les deux, mais j'ai une préférence. Et cette préférence, elle s'impose à moi. Du coup, se pose la question du libre arbitre. Si cette préférence s'impose à moi, est-ce que j'ai l'opportunité de faire différemment? Parce que l'intelligence situationnelle voudrait dire que parfois être extraverti, c'est vachement bien. Et heureusement, il y a aussi des situations qui favorisent les introvertis. Et dans le monde dans lequel je vis, dans mon environnement, bah parfois il vaut mieux être extraverti, parfois il vaut mieux être introverti. Du coup, si je développais ma non-préférence, et je l'ai, elle est disponible parce que je suis les deux. Et un, je prends conscience de ma préférence. Deux, je développe ma non-préférence. Du coup, je corrige les excès de ma préférence et je suis complet. C'est ça le cheminement de développement personnel. C'est déjà prendre conscience d'où je viens, suis-je droitier ou gaucher, quelles sont mes préférences cognitives, et du coup, comment je peux aller mobiliser la polarité opposée. Parce que dans mon parcours de vie, naturellement, j'en aurais besoin.
Donc,
Et
tu demandes,
l'intelligence de soi, c'est prendre
ouais.
conscience de ça, être
Cette
conscient de mes
lucidité de
préférences.
ça, cette lucidité dont tu parles, c'est je suis conscient en fait, tiens, dans cette situation.
Absolument.
Eh ben, en fait, parce que là, c'est, enfin, on peut l'imaginer dans un moment de réflexion, c'est assez peut-être plus facile, mais dans l'instant, dans la réaction face à la situation de stress, avec tas de choses à faire, et puis on oublie d'être lucide.
Ah ben, et même sous stress, on agit automatiquement. C'est nos préférences. Quand tu prends ton stylo de la main droite, tu ne t'es pas posé la question de prendre de la main droite. Donc, dans nos vies au quotidien, on agit très souvent sur des schémas comportementaux qui se sont imposés à nous. Et c'est pire que ça, c'est que là aussi, celui qui n'agit pas comme nous, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va le juger, il nous énerve. Les gens qui nous énervent, c'est les gens qui n'ont pas les mêmes préférences que nous. Alors, soit ils nous énervent et on va rentrer en tension avec eux, soit tout simplement parce qu'on comprend, on monte en lucidité, on se dit, ah, mais voilà pourquoi j'agis comme ça, voilà pourquoi tu agis comme ça. Ah, mais c'est génial parce que finalement, maintenant que je comprends qu'on est différent, non seulement je respecte cette différence, mais j'y vois plus un problème, j'y vois une solution puisque tu es complémentaire à moi. Et là, on rentre dans du co-développement. Ma préférence, c'est ta non-préférence. Tiens, je vais te montrer, moi, quel est l'intérêt d'être comme ça. Puis toi, tu vas montrer, toi, pourquoi c'est intéressant d'être comme ça. Et tu vois, on n'est plus dans le conflit de vouloir s'imposer aux autres dans notre méthode, mais plus dans l'ouverture et la perspective des méthodes des autres. Et là, comment ça, possiblement, en tout cas, le terreau possible à créer l'intelligence collective, qui est la reconnaissance consciente du fait que les autres ne fonctionnent pas comme moi, ont d'autres perspectives. Et c'est ça la richesse du truc.
Du coup, comment traduire, enfin, dans un fonctionnement, par exemple, dans une réunion, moi, je suis très versé dans les réunions parce que je pense que c'est des moments importants, c'est les moments où, en fait, les gens se parlent. Donc, c'est des moments où il se passe plein de choses dans l'intelligence collective. Comment traduire cette lucidité, cette invitation à être lucide de soi, de l'autre, etc., dans un moment, par exemple, tu prends une décision, tu es avec ton comité de direction, tu décidais d'investir dans quelque chose ou prendre des décisions stratégiques. Est-ce que dans ces moments-là, quel est le bénéfice, j'avais dire, le ROI d'avoir travaillé, parce que j'imagine que tu as travaillé avec ton équipe, j'en sais rien en fait, mais j'imagine. Est-ce que tu vois une différence dans la décision, dans la qualité de la décision, dans la qualité de la conversation, dans le choix ultime qui est fait parce que ça se traduit par des stratégies qui vont changer. Non, si tu commences à fonctionner autrement, ça a un impact.
Oui, alors si tu as bien fait le boulot, tu inconsciemment ou consciemment, tu t'es assuré d'avoir des profils différents.
Ouais.
Bon, alors tu sais, on parle homme-femme. Moi, j'avais un comité de direction où il y avait moitié d'hommes, moitié de femmes. Ce qui est terrible, c'est que c'est la moindre des choses, mais c'est que le début du début de la diversité. Hein? Parce que la diversité, elle est multiple, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est consciemment ou consciemment s'assurer quand même qu'on a une équipe qui a justement une diversité forte pour avoir des perspectives fortes. Quand on s'est dit ça, on a une décision importante à prendre. Eh bien, au moins s'assurer que chacun puisse pleinement s'exprimer dans sa perspective et dans sa différence. Et ne plus être dans une bataille d'ego en expliquant pourquoi c'est moi qui ai raison. Mais comme on sait qu'on est tous différents, je ne suis plus là pour avoir raison. Je suis juste là pour expliquer à travers mon prisme ma vision de la décision à prendre. Et je ne suis pas là pour l'imposer, je suis juste de dire voilà ce que je pense par rapport à la question qui est posée. Et puis, les autres aussi, donc chacun va pouvoir pleinement s'exprimer. Et in fine, quel est le rôle du patron? Parce qu'on dit toujours maintenant, là aussi, c'est pareil, entre l'autorité ultime et l'entreprise libérée où il n'y a plus rien. Encore une fois, deux dogmes. Moi, je crois que il faut un arbitrage. Je n'appelle pas ça de l'autorité, j'appelle ça de l'arbitrage. C'est-à-dire que c'est normal, puisqu'on a cette diversité, ben forcément, on a des prismes, des façons de voir différentes, donc on ne va pas avoir une décision unanime qui va ressortir de l'équipe. Ou alors, c'est problématique. S'il y a une décision unanime, alors on doit se dire, merde, il y a un problème. C'est que mon équipe, elle est formée de gens qui pensent tous la même chose. Alors, c'est rassurant, hein, ça fait plaisir au patron, parce qu'en général, comme c'est lui qui les a recrutés, il pense comme eux, mais alors du coup, il s'appauvrit, il n'y a pas d'intelligence collective. Donc forcément, il n'y a pas d'unanimité. Mais ce n'est pas grave, au contraire, c'est riche. Et après, on débat, mais à un moment donné, il faut arbitrage. Sinon, il n'y a pas de mouvement. Ben, c'est au patron d'arbitrer.
J'ai l'impression, dans ce que tu dis en creux, c'est en fait, en développant l'intelligence de soi, c'est-à-dire la propre conscience que j'ai mes préférences et que elles ont leur part de richesse, mais elles ont leur part de limite ou de leur part d'angle mort, mais que l'autre a sa part de richesse peut-être complémentaire à moi. Alors, en fait, ce que je te dis en creux, c'est que ça développe finalement l'écoute. Mon but n'est pas d'avoir raison, mon but c'est d'exprimer, comme tu disais. Mais du coup, je peux m'intéresser à l'autre et donc je peux entrer dans l'écoute, dans la co-construction. Mais je le fais parce que j'ai conscience qu'il a un truc que je n'ai pas, potentiellement.
En fait, tout simplement parce que au départ, nous ne sommes pas complets.
C'est ça la grande idée, en fait.
Et c'est pour ça que l'intelligence collective a du sens. Si j'étais complet en tant que leader, ben, je n'aurais pas besoin des autres. Et c'est pour ça qu'on est cette on est à la fois, il faut qu'on développe à la fois notre autonomie et notre interdépendance. On est interdépendant parce qu'on n'est pas complet. Donc, notre chemin de développement personnel, c'est d'essayer de le devenir. Bon, bah, écoute, hein, il y en a quelques-uns qui arrivent, hein, c'est Bouddha, c'est Dalai Lama, c'est… Bon, c'est, moi, je n'ai pas cette prétention-là, mais ça veut dire qu'on peut essayer de le devenir. Du coup, l'intérêt du coaching, l'intérêt de travailler sur soi. Et puis, en parallèle, mais bon sang, même si je fais ce travail-là, de toute façon, je ne serai pas complet. Donc, c'est comment je fais en sorte d'être entouré de gens différents de moi qui m'amènent collectivement à une forme de complétude où on a toutes les perspectives dans la salle qui s'expriment.
C'est intéressant parce que tu vois, on vit. Il me semble que il y a un podcast, un des derniers podcasts où on échangeait sur ce grand mouvement de, enfin, sur l'intelligence collective et sur l'autonomisation. Mmh. C'est-à-dire que fondamentalement, on est dans un grand mouvement d'autonomisation. Enfin, l'intelligence collective présuppose des personnes autonomes, c'est-à-dire capables de s'orienter, capables de prendre, de ne pas forcer, pas chercher la conformité, tu sais, de ressembler ou de se fondre mais d'assumer leur diversité, donc d'assumer leurs différences et d'être self-directed, c'est-à-dire d'avoir leurs propres objectifs, quitte à déplaire. Et en fait, donc, des gens qui s'autonomisent. Mmh. Et dans cette autonomisation, il y a un petit peu l'idée que je vais grandir dans ma complétude, c'est-à-dire que je vais me faire confiance. Mmh. Je vais assumer ce que je crois pour aller là-bas parce que j'ai confiance. Et, donc, il y a un enjeu, c'est cet équilibre entre, d'un côté, j'assume qui je suis et j'y vais. Donc, par exemple, je quitte PepsiCo et je vais monter. J'assume. J'ai pas demandé. Tu n'as pas la vie. Enfin, j'imagine que il y a un choix individuel. Il y a une prise de risque individuelle. Mm-hmm. Et puis, il y a un autre endroit où je suis incomplet. Donc, je travaille avec d'autres. Et entre la référence à la soi et la référence aux autres, je pense qu'il y a un sujet pas simple. Parce que je trouve qu'on le voit, et je termine, on voit ce grand mouvement, la grande the Great Resignation, donc le grand, je ne sais plus comment, pas comment on dit en français, ce mouvement de départ des entreprises, enfin, les gens qui veulent être indépendants. Qui milite pour ce côté, cette autonomisation qui est positive, mais qui est aussi peut-être aveugle de. Enfin, peut-être pas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de cette.
Non, mais c'est
co-construire. Voilà.
C'est une question fondamentale, tu sais, dans les prismes culturels, tu as des civilisations qui sont plus collectivistes en Asie et des civilisations qui sont plus individualistes. C'est vrai qu'en Occident, on a été beaucoup influencé par la pensée libertaire, libéraliste anglo-saxonne, qui fait que. Et puis, bon, tu reprends la pyramide de Maslow, l'idée, c'est l'accomplissement de soi en tant qu'individu. Et c'est bien, mais là encore, si c'est pas en résonance avec la collectivité pour le bien commun, ça n'a pas de sens. Donc c'est finalement l'idée, c'est de lutter contre les dépendances ou les indépendances, mais c'est de créer une forme d'interdépendance de personnes autonomes. Et on n'a pas à l'opposer. Chercher chacun son chemin de complétude et d'accomplissement, c'est formidable, c'est nécessaire. Et c'est bien ça la lutte historique, hein, si on devait se dire, c'est un principe un peu hegelien, mais c'est quoi quel est ce fil rouge dans notre histoire individuelle et collective? C'est peut-être cette quête de liberté, de liberté de soi. Mais derrière, il faut jamais oublier que on est soi que parce qu'il y a les autres et qu'il y a cette interdépendance positive. L'autre ne m'empêche pas d'être moi-même. Bien au contraire. L'autre peut m'inviter à être moi-même dans ma singularité, contrairement à ce qu'on a fait pendant des siècles à vouloir lui imposer ma propre singularité. C'est vie ta singularité. Mais c'est parce que tu es singulier que tu es interdépendant et que je suis interdépendant avec toi, parce que ma propre singularité, elle nous complète. Voilà. Et ça, c'est vraiment aussi cette idée d'intelligence de soi, c'est cette idée de gestion des polarités. On est toujours en train d'essayer de concilier les polarités que l'on considère parfois opposées, et qui le sont. Le sujet, c'est de se dire, ben oui, elles s'opposent, mais pour autant, on a besoin des deux. Donc, il faut les concilier.
Oui, et c'est cette idée. Alors là, on rentre dans le domaine des polarités et des paradoxes, parce que en fait, ce que tu dis, c'est fondamentalement dans l'enjeu dans lequel on est, c'est l'éducation à l'interdépendance, la capacité à apprendre à fonctionner en interdépendance, à la fois être pleinement autonome et pleinement avec les autres. C'est une
Absolument.
espèce de chemin à trouver. Personnellement, je pense que c'est le grand paradigme dans lequel on rentre. On se rend compte qu'on est interdépendant. On se rend compte à nos dépens, par ailleurs. Hein. On le voit à tous les niveaux, dans notre environnement, le climat, mais situation géopolitique. On est dans l'interdépendance économique. C'est peut-être la grande prise de conscience, mais on n'est pas vraiment équipé pour. On n'a pas vraiment les outils relationnels, intérieurs pour le piloter. Mais du coup, si vous, chez Osiris, vous avez participé à cette éducation à l'interdépendance en travaillant sur la gestion de ces polarités dans la relation, mais aussi en nous. C'est ça, quoi. Mais il s'agit pas de dire, tiens, là, je vais arrêter d'être introverti, je vais choisir l'extraversion. C'est plutôt une espèce d'intégration des deux. Enfin, je pense que c'est, il s'agit
Absolument.
pas de faire un arbitrage sur, tiens, je vais la jouer comme ça. C'est plutôt, comment finalement on intègre des polarités, comment on fait du et pas du ou? C'est la question, finalement.
Tu as bien résumé ça, c'est nous sommes des faiseurs de et. L'intelligence de soi, c'est nous sommes des faiseurs de et. Et très souvent, on rentre dans l'entreprise, et moi je l'ai vécu, si tu veux, parce que c'est vrai que beaucoup, pendant des années, tu vois, les mots que je ne supportais plus, c'était ambiguity management, executive maturity, agility. Ça, c'est les grandes injonctions que les entreprises donnent, parce qu'elles sont elles-mêmes incapables de pouvoir aider leurs collaborateurs à manager des injonctions qui sont paradoxales. Hein. Encore une fois, moi j'adore cette idée de mais soyez entrepreneur, mais par contre soyez hyper discipliné sur les process. Bon, je me suis fait beaucoup aider. Moi j'ai fait un BHEC où on avait eu la chance d'avoir des officiers qui sortaient de l'école de guerre. Et typiquement sur cet exemple-là de la discipline et de l'autonomie, je trouve l'armée absolument prodigieuse en termes d'exemplarité parce que l'armée, les militaires sont et disciplinés et super autonomes. Il n'y a pas plus autonome qu'une compagnie, qu'un soldat sur le terrain. Il est tout seul. À partir de là, faut y aller. Mais c'est par la discipline dans les processus et dans la préparation qui peut se permettre d'être totalement autonome. Donc, du coup, tu opposes plus les deux. Tu dis, mon autonomie, je suis d'autant plus autonome que j'ai été discipliné. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas chercher à opposer, qui est la simplicité, mais que de gérer la complexité. Hein, ça, c'est la force de la pensée d'Edgar Morin, hein, qui nous ramène toujours à ça. C'est regarder les choses de façon dans leur complexité et non pas dans leur opposition. On peut être et l'un et l'autre. Le grand débat des sociétés, c'est allez, je te centralise, allez, je te décentralise. Et à chaque fois, c'est à fond dans un sens comme dans l'autre. Ce n'est pas la question. C'est dans notre operating model, qu'est-ce qui doit être centralisé? Qu'est-ce qui doit être décentralisé? Ben oui, il y a des synergies à obtenir en centralisant un certain nombre de fonctions. Mais il y a aussi beaucoup à gagner en gardant certaines fonctions au local, décentralisées. Mais c'est compliqué dans l'esprit des gens. Et du coup, tout de suite, on dit, ah ben tu me demandes d'être décentralisé, mais tu centralises tout. Ben oui, parce que je ne sais pas te l'expliquer et que moi-même, je n'ai pas la bonne vision des choses. Bienveillance et exigence, ça c'est un de mes grands trucs. Et chez PepsiCo, pendant des années, et j'étais pas tout seul, hein, cette histoire, cette aventure, cette histoire de plein de gens. Mais c'était quelque chose qui nous a beaucoup construit. On voulait être et bienveillant et exigeant. Parce qu'il y avait un cercle vertueux qui était la performance économique est au service de la performance sociale, du bien-être des collaborateurs, qui elle-même est au service de la performance économique. Donc oui, en tant que leader et manager, on peut être et bienveillant et exigeant. Il ne faut pas l'opposer.
Mais un petit peu comme on peut être introverti et extraverti, pour prendre ton exemple de tout à l'heure sur la dimension dont tu parlais. Par exemple, moi, je suis assez introverti sur les choses, mes sentiments, voilà, mes choses que je ressens. J'ai du mal à les exprimer. Je vais être assez presque timide pour dire certaines choses. En revanche, je peux animer un groupe de 300 personnes au micro, ça ne me pose aucun problème. Et donc, c'est très paradoxal finalement. Donc, je suis et introverti et extraverti selon les situations, selon la type d'activité.
Absolument.
Et ça, c'est vrai sur toutes les dimensions de. On a,
Alors,
on, on a, on est tellement. Voilà.
non, mais c'est vrai, pour répondre, si on revient aux préférences cognitives,
Je reviens là-dessus.
L'idée, mais c'est hyper intéressant. L'idée centrale, c'est de dire qu'on a une préférence à la naissance. Encore une fois, droitier, gaucher, introversion, extraversion. Si on prend les quatre autres, hein, c'est l'idée, est-ce que je suis plutôt intuitif ou plutôt sensoriel? Est-ce que je suis plutôt rationnel, logique, objectif ou plutôt empathique, sentiment? Est-ce que je suis plutôt proactif ou réactif? Voilà les quatre grandes dimensions. Mais comme la nature est bien faite, elle nous a donné une préférence. Sinon, tu vois le bordel. À chaque jour, quand on se lève le matin, on pourrait se dire, là, comment je fais? Bon, par efficacité, on a eu une préférence. Mais ce n'est pas parce qu'on a une préférence qu'on n'a pas l'autre. Donc, si on revient à introversion, extraversion, nous sommes tous et introvertis, extravertis. Mais nous, comme nous avons tous deux mains. Mais le fait est que j'en ai une qui est préférée. Du coup, plus je serai lucide sur le fait que je comprends et je sais quelle est ma préférée, plus je vais voir finalement ce que m'apporte ma non préférée, plus je vais finalement avoir l'opportunité d'en jouer. Et oui, je suis les deux, mais je suis d'autant plus les deux que je l'ai vu, je l'ai repéré, que je le sais et que j'ai expérimenté la non préférence et que je lui ai laissé de la place. Parce que quand tu écris de ta main droite, tu n'écris jamais de ta main gauche toute ta vie. Ben c'est vrai, avec nos préférences et nos non-préférences cognitives, on peut dire, mais est-ce qu'on leur laisse la place? Mais comme finalement, dans notre environnement, on est amené à devoir nous adapter, bien sûr, dans notre éducation familiale, scolaire, dans le monde de l'entreprise, on va nous amener à nous contredire, à aller jouer, à aller chercher nos non-préférences, ce qui nous met dans l'inconfort très souvent. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, je suis dans l'inconfort, je me désénergise. C'est qu'à un moment donné, tu es trop longtemps dans ta main gauche. Quand tu écris de ta main gauche, ça te fatigue. Puis tu n'es pas content du résultat. On est contredit, mais la bonne nouvelle, si on est contredit, il ne faut pas le faire trop longtemps parce qu'on est désénergisé. C'est pour ça que c'est important de savoir d'où on vient. Mais par contre, on nous apprend à développer l'autre partie. Donc oui, devenir complet, c'est être lucide et pouvoir aller chercher les deux.
Finalement, ce qui se passe au niveau individuel et ce qui se passe au niveau du collectif, on est sur les mêmes problématiques
C'est la même
d'intégration.
intelligence de soi ou intelligence de nous,
Voilà. Sur
absolument.
du nous et sur soi, c'est le même mécanisme, c'est de la
Ah
diversité en
ben,
soi, la
c'est bien.
diversité dans le collectif où on fait du et on apprend à faire ce. Alors, si je reviens sur, parce que les gens qui écoutent ce podcast sont des gens qui, enfin, ce podcast est destiné à des gens qui sont en train d'accompagner une transformation des leaders, des accompagnateurs du changement, qui se disent comment faire, comment je fais, je suis dans ma. Voilà, j'ai cette organisation, ces équipes à emmener. J'aimerais que ça change, qu'on évolue. Mais, alors, bien sûr, on peut appeler Osiris. Tu vois bien le.
Absolument, on en
Tu
serait
vois,
ravis.
c'est sympa, hein, je te fais le. Mais surtout, bien sûr, mais c'est quoi le conseil que tu leur donnes pour justement développer cette intelligence de soi, intelligence du nous, et cette espèce de maturité, finalement. Peut-être que c'est peut-être une réponse qui est pas une réponse linéaire, c'est une réponse de l'ordre complexe, mais peut-être très efficace ou très efficiente. C'est quoi le conseil que tu peux donner à quelqu'un comme ça qui dit je vais accompagner un changement, mais je ne sais pas trop comment y prendre. Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de ce que tu nous racontes? Voilà.
Bon, déjà une tarte à la crème, c'est que la transformation, il faut vraiment la regarder de façon holistique. C'est-à-dire, elle est organisationnelle, elle touche toutes les fonctions, mais elle est collective et elle est aussi individuelle. Voilà. Donc il y a l'organisation, les équipes et les individus. Le point de vigilance à avoir, c'est dans l'accompagnement du changement, au-delà des résistances qu'on connaît, c'est finalement de se poser la question de celui qui veut ce changement-là, l'a-t-il lui-même intégré et incarné? Est-ce qu'il le vit lui-même? Est-ce qu'il le fait vivre à ses équipes pour pouvoir leur demander? Et ça, pour moi, c'est vraiment aussi, on revenait à cette définition du leader de demain, c'est cette idée de j'incarne ce que je veux que les autres incarnent. Et ça, c'est très important. Parce que de façon systémique, quand tu dis que fais ça et que tu ne le fais pas, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Et c'est tout le problème qu'on a, c'est ce qu'on appelle les éléments de langage, tu vois, c'est vraiment, ça a touché la politique et c'est pour ça que ben, les partis sont partis en vrille, mais ça va toucher l'entreprise aujourd'hui aussi. Je pense que la nouvelle génération, mais même la nôtre, je veux dire, on ne supporte plus le fait de dire oui, c'est sauver la planète qui est très important, et puis faire des arbitrages sur le profit court terme en permanence. Ça va plus. Donc, quoi qu'on fasse, peut-être qu'il faut faire un peu moins que ce qui est prévu, mais de le faire vraiment et de l'incarner. Voilà. Ça, c'est hyper important pour moi. Sinon, ça ne suit plus. Ce n'est pas possible.
Merci. Je trouve que c'est un super conseil. Je trouve que c'est essentiel. Enfin, et ça va avec la dimension complexe systémique dont tu parlais. Du coup, j'aimerais je vois le temps passer, j'aimerais changer de. Enfin, j'aimerais te poser une question. Je ne sais pas dans nos auditeurs si beaucoup sont formés à Osiris, mais je pense que oui, parce que Osiris a formé des générations de coachs, de consultants. Moi, quand j'ai démarré, c'était la première formation que je me suis payée. Je me souviens et je n'ai pas regretté. à Fontainebleau, etc. Donc, j'aimerais te demander un peu des nouvelles d'Osiris. Dans cette nouvelle configuration, peut-être c'est quoi le projet? Parce que c'est pas rien. Je pense vraiment que Geneviève et Pierre ont touché des gens dans leur métier, dans leur vie, les ont accompagnés, de nombreuses personnes. Donc ça intéresse, je pense, ceux qui ont été accompagnés ou si c'est pas, même s'ils ne l'ont pas été, peuvent se représenter ce que ça veut dire en termes de legacy. C'est une entreprise qui a une énorme legacy, c'est-à-dire un héritage et intellectuel, mais aussi une communauté, enfin une marque, toutes sortes de choses, très fort. Tu rentres là avec une nouvelle énergie et des fondateurs. Donc c'est une situation qu'on peut retrouver aussi dans des entreprises. Voilà, j'ai envie de te poser la question, comment ça se passe pour toi? Et surtout, c'est comment tu fais pour à la fois embarquer la legacy, créer quelque chose de nouveau. Enfin, voilà, je vais te demander de partager cette expérience après 18 mois.
Écoute, on ne reprend pas Osiris comme on reprend une entreprise classique. Et tu vois, on a eu début janvier, on a fait un point, les trois associés avec Pierre et Geneviève, qui sont des pionniers hein, dans le monde du coaching et qui ont inventé. Ce sont seulement des pionniers, c'est-à-dire qu'ils ont introduit un nouveau métier et ils ont créé une démarche. Et qui a fondamentalement marqué, comme tu le dis, il y a plus de 2000 alumni hein, formés chez Osiris. Et d'ailleurs, dans ma reconversion, je n'ai pas vu Osiris comme une opportunité business. Et je crois qu'avec Hélène et Bruno, là-dessus, on est très clair. On l'a vu comme une vocation, une mission. C'est-à-dire qu'il fallait qu'Osiris continue. Et alors, c'est très marrant parce que, et très touchant, c'est que. On fait des réunions avec des anciens et ils nous remercient en fait. Au début, on ne comprenait pas pourquoi. Ils nous remercient juste pour nous dire, mais ça continue, merci, ça continue, parce que c'était vraiment important pour eux. Après, nous, ce qu'on va faire tous les trois sera forcément différent de ce que Pierre et Geneviève ont fait. Notre job à nous, dans un premier temps, et la raison d'être de ce chapitre 2 de l'histoire d'Osiris, et j'espère qu'il y aura. J'en suis sûr, un chapitre 3, un chapitre 4, mais ce deuxième chapitre, c'est comment on fait pour promouvoir et diffuser l'intelligence de soi dans la société à travers la formation de professionnels de l'accompagnement, des RH, des consultants, des coachs, des outplaceurs, des conseillers d'orientation. Voilà, il y a plein de gens qui peuvent s'intéresser à l'intelligence de soi. Et comment on pénètre l'entreprise? Pour pouvoir là aussi aider les leaders et les managers à intégrer l'intelligence de soi dans leur acte de leadership et de management. Et puis peut-être demain, c'est notre rêve, et on commence à le faire petitement, mais comme une petite boîte, on va y aller tout doux, hein, on ne peut pas tout faire, mais aussi intervenir dans les écoles, au moins après bac, pour pouvoir. Sérieusement, c'est-à-dire ne pas faire passer un BTI, un CCTI dans un forum de 200 personnes et leur dire voilà, vous avez trouvé vos quatre lettres, barrez-vous. Mais vraiment le faire comme des modules de leadership, de compréhension de soi, parce que c'est en touchant les étudiants dès le début qu'on transformera l'entreprise et donc la société. Et c'est vrai que je parle beaucoup de l'entreprise parce que c'est là où on passe le plus de temps dans notre vie et c'est là où on peut toucher les gens dans la formation. C'est un formidable vecteur de transformation de la société, l'entreprise. Donc, humblement, c'est poursuivre l'œuvre de Pierre et Geneviève, et notamment dans sa propagation, sa diffusion. C'est ça notre job à nous, et mobiliser les alumni, et là-dessus, on y travaille.
Ce que tu dis me fait penser par rapport aux écoles, c'est juste une réflexion, me fait penser à ce qu'a fait la communication non violente. La communication non violente, c'est quand même, enfin, s'appuie sur des racines communes, Carl Rogers.
Absolument.
Et donc, on est dans le même univers, enfin, dans un univers qui dit, il se passe des choses à l'intérieur, il y a toute une réalité intérieure qui, justement, qui est complexe, qui est systémique, qui évolue, etc. Et bref, et le CNV s'est beaucoup attaché à être dans les écoles. Enfin, il y a plein de choses en CNV, mais dans les écoles, il y a toute une approche. En plus, leur pédagogie est assez facile avec la girafe, le chacal. Enfin, tu es sûrement familier avec tout ça. Et j'ai découvert que mes enfants faisaient de la CNV à l'école, par exemple, en Belgique.
Ah, mais on progresse, mais alors ça, c'est intéressant parce que aussi, dans tout le processus qui m'a amené à faire ce métier-là, j'avais une intuition, une conviction très forte depuis très longtemps, et je ne savais pas l'expliquer et le verbaliser. Mais je me disais, c'est dingue, on envoie des gens sur la Lune, mais on ne prend pas le temps de s'explorer déjà intérieurement. Et quand j'ai décidé de faire cette reconversion, c'était assez marrant parce que j'ai décidé de partir, après Père Psycho, de partir voyager un peu, et j'ai fait l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et moi, il y avait un explorateur chez moi. Ouais. Et je me suis dit, ah, oh, c'est quand même dommage. Et je suis parti avec le livre Ma vie de Jung. Et j'étais en Australie, je me dis, oh merde, c'est dommage, il n'y a plus rien à explorer. Et je lisais le bouquin de Jung sur ma vie, sa biographie. Et en fait, alors que j'étais dans ces derniers territoires
Génial.
découverts, je me suis dit, mais c'est dingue. Mais si il y a encore un territoire inconnu, c'est l'inconscient.
Ouais.
Et en fait, on n'en est qu'au début. Et tu vois, nous, Osiris, simplement, il y en a plein des acteurs qui nous aident à ça. On est un peu des passeurs ou des. On est juste là pour dire, eh oh, si déjà on apprenait à se comprendre nous-mêmes, peut-être que ce qui se passe malheureusement en ce moment en Ukraine n'arriverait pas. Peut-être que, tu vois, cette violence n'arriverait pas. Peut-être que, cette discrimination n'existerait plus. En tout cas, il y a ici, là, un territoire qui s'est ouvert à nous depuis les travaux de Freud, de Jung et tout ce qui a succédé, qu'on ne peut pas laisser de côté, quoi, hein. Il faut vraiment les appréhender. Et c'est la prochaine frontière. Et cette frontière-là, c'est chacun individuellement qui doit l'appréhender. Pour soi, mais aussi pour les autres, encore une fois. Hein, qui s'élève élève le monde. C'est vraiment ça. Et puis ça vient aussi de la pensée asiatique, hein, du bouddhisme. Enfin, il n'y a rien de nouveau, sauf que c'est lent à monter. Une forme d'impatience chez moi parfois, mais voilà.
Mais tu vas peut-être amener le savoir-faire de croissance, la croissance que tu as faite chez PepsiCo. Peut-être tu peux l'amener dans l'énergie de
J'aimerais bien.
communication et d'impact, j'espère.
J'adorerais,
Mais oui,
j'adorerais,
mais oui.
j'adorerais. Ouais, et puis c'est
Peut-être que
vrai
c'est
que
peut-être ça aussi que tu peux amener.
dans cette analogie, c'est vrai que, encore une fois, avec Hélène et Bruno, on a tous des rôles différents. Et Hélène, elle est vraiment dans la capacité à rentrer dans la profondeur de la méthode, de la démarche. Elle est très impressionnante. Et c'est vrai que moi, mon rôle, c'est plus peut-être d'être dans l'impact. Et voilà, et c'est peut-être pour ça que les 25 années que j'ai fait derrière moi, je peux peut-être les mettre au service d'Osiris positivement. Hein, c'est comment on arrive à diffuser, à propager, à impacter, mais on ne parle pas de part de marché,
Bien
c'est
sûr.
plus positif. Là, on parle juste d'aider, de contribuer, d'insuffler, de voilà.
Mais tu sais, l'impact, parfois la mesure, on n'a pas idée de l'impact. On peut pas mesurer l'impact que tu as systémiquement, que vous avez
Non, bien sûr,
systémiquement
bien sûr.
dans l'humanité, dans la société, à travers toutes les personnes indirectement qui sont touchées. C'est inimaginable. C'est inimaginable. J'ai peut-être une dernière question. C'est du coup, en 18 mois, si il y a eu le Covid, puis il y a eu toi, cette nouvelle étape, c'est un truc que tu as appris, toi, en tant que dirigeant. C'est toujours intéressant de poser des questions à un dirigeant, ce qu'ils ont appris. C'est quoi le truc que tu as appris, peut-être qui ressort le plus de ces 18 derniers mois? Tu dirais quoi?
C'est vrai que moi, ce que j'ai appris, d'abord, c'est l'entrepreneuriat. Hein. Donc maintenant, quand je me retourne, j'ai pas, Je n'ai pas des lourdes équipes compétentes, professionnelles, engagées. Donc, d'où mon impatience parfois, parce
Les
qu'on a
700
mis
personnes ne sont pas derrière.
Non, et puis un principe de réalité. Moi, je suis intuitif, donc mon chemin de développement, il est dans la conquête sur cet axe-là du réalisme, du pragmatisme, du concret. Donc, je dirais que c'est tout ça. Je crois avoir une vision. Je crois en tout cas, nous avons une vision pour Osiris. Je crois que c'est la bonne. On voit la direction. Mais ce que j'ai appris, c'est que les chemins que nous allons emprunter pour y arriver ne sont pas ceux qui étaient prévus. Et pour ceux qui sont demain, je ne les connais pas encore. Voilà, c'est comment finalement, tout en regardant le sommet, avec humilité, on arpente le chemin et on choisit les chemins qui nous sont offerts, qui nous sont proposés, qui, fort des opportunités, des contraintes, des champs du possible. Donc, je ne sais pas comment on va y arriver concrètement, mais je sais qu'on va y arriver.
Ça, c'est une parole de leader, ça. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais je sais qu'on va y arriver. Écoute, merci beaucoup de partager ça, de partager aussi la vérité. Voilà, là où tu es, là où tu en es. J'aimerais bien, pour terminer notre échange, te proposer, ce que j'aime bien faire avec nos invités, c'est simplement de te laisser seul avec nos auditeurs, avec l'audience. Je coupe mon micro pendant, je ne sais pas, 1 minute, 2 minutes. Et c'est un moment. Et aussi, j'enlève mon casque. Donc, je ne sais pas ce que je t'entends pas. C'est toi tout seul avec les personnes qui nous écoutent peut-être demain, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 3 ans. On ne sait pas. Dans la distance du temps et de l'espace, il y a des gens qui écoutent ce podcast dans 20 pays différents. Donc, je ne sais pas où ils sont, où vous êtes, chers auditeurs. Et donc, ça te va? T'es OK pour ça? Et si tu veux, ça peut être un moment de silence. Si tu veux offrir, je ne sais pas, un moment juste de silence. Ça peut être ce qui te vient là maintenant, ce que tu as envie de dire aux personnes qui se disent « Waouh, moi, j'ai aussi envie de m'engager, j'ai envie de pour peut-être plus de conscience, j'ai aussi dans mon organisation, j'ai envie de contribuer à ces changements. » Et puis qui sont avec ça et puis qui t'ont écouté là pendant 1 heure. C'est OK, c'est bon pour toi?
OK.
À tout de suite.
À tout de suite. Étant de préférence extraverti, je ne vais pas laisser trop de place au silence, même si je travaille cette partie de l'introversion et que j'adore les silences. Non, je dirais juste essayez d'explorer pleinement votre singularité fort de cela, comme le disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir advenir dans ce monde. Je crois que il n'y a pas une personne que je rencontre qui ne voit pas ce qui pourrait aller mieux, qui ne voit pas que notre société est dans une grande transformation et un moment important. Donc voilà, essayons chacun individuellement, petitement, humblement, mais d'incarner le changement qu'on aimerait que la société opère. Parce que c'est à chacun de nous d'apporter sa pierre. Voilà, et je suis sûr que grâce à l'effort de chacun, ce monde sera meilleur.
Alors voilà. Bruno, merci de cet échange. Merci parce que ce qui m'a touché, c'est en fait, il y a un côté citoyen au vrai sens du terme. Je trouve dans ta démarche, dans la démarche de t'engager, je pensais à un vrai engagement qui est le plus profond. De prendre responsabilité pour qui tu es, ce que tu peux apporter et le mettre en mouvement et t'y engager avec tout, avec ton temps, avec ton argent, avec ton énergie et t'y consacrer pour faire une différence je pense, pour ce monde, pour cette société. Donc, je trouve que ça me donne envie de dire merci, je ne sais pas au nom de quoi, mais parce que ça aussi, ça. Comme moi, ça m'inspire. J'espère que ça va aussi inspirer, je suis certain, les gens qui nous ont écoutés dans cet épisode. Merci. Je te dis à bientôt.
À très bientôt, à très vite.
Et merci à tous de votre écoute. On espère que voilà, cet épisode vous aura inspiré. Entendez, écoutez, laissez résonner ce qu'a partagé Bruno. Et c'est quoi peut-être une des choses qu'il a dit, que ça vous a envie de faire maintenant, très concrètement. C'est une petite chose, ce serait quoi? Voilà, restez branchés sur notre chaîne et à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.